midi 30, 13h,
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. À la une, l'un des leaders des Gilets jaunes gravement blessé à l'œil hier après-midi, place de la Bastille à Paris, Jérôme Rodriguez parle d'un tir de lanceur de balle de défense. Quand les premiers éléments de l'enquête parlent d'une grenade de désencerclement pour expliquer cette blessure, nous ferons le point avec Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Au lendemain de la mobilisation des Gilets jaunes, place aux foulards rouges qui veulent défendre la démocratie. Rassemblement, place de la Nation. À Paris, nous serons sur place. Autre rassemblement, celui pour le climat, avec des marches à travers toute la France. Les associations espèrent que le succès de la pétition, l'affaire du siècle, va doper la mobilisation. Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace France, sera mon invité. Nous serons au Venezuela où le président autoproclamé Juan Guaido met la pression sur Maduro. Le journal des sports avec la victoire sans appel en 3 petits sets de Djokovic à Melbourne en finale face à Nadal. Et un cocorico avec la paire Herbert Mahut qui remporte la finale en double à Melbourne. Enfin la météo et ça va souffler fort sur les côtes.
Europe 1.
Mais qu'est-ce qui a provoqué la blessure à l'œil de Jérôme Rodriguez, l'un des leaders des Gilets jaunes? C'était hier après-midi, place de la Bastille à Paris. Nouvel élément ce midi après l'ouverture d'une enquête par la police des polices. Jérôme Rodriguez dit que sa blessure a été provoquée par un projectile de LBD, un lanceur de balles de défense. Ce qui est en contradiction, Guillaume Bier, avec les premiers éléments de l'enquête.
Exactement. Pour l'instant, les premières constatations des enquêteurs montrent bien qu'une grenade de désencerclement a explosé juste au pied de Jérôme Rodriguez. D'ailleurs, cela apparaît clairement sur la vidéo qu'il réalisait lui-même et diffusait en direct sur Facebook. On voit distinctement l'explosion au sol et immédiatement, il s'effondre, touché à l'œil droit. Mais d'après son avocat, ce n'est pas cette grenade qui aurait provoqué la blessure, ce serait un tir de balle de défense au même instant, explique Maître Deveul à Romain Noquet.
Il y a eu grenade, il y a eu les deux si vous voulez. Il y a eu tir de grenade et tir de flashball simultanément. Et si vous voulez, l'éclat de la grenade, c'est des éclats en plastique qui font quelques petits centimètres, 3-4 centimètres de diamètre. Si vous regardez la marque à l'œil de Jérôme, vous voyez très bien que c'est plus un flashball qu'un éclat de caoutchouc d'une grenade. Et j'ai d'autres témoignages qui sont moins directs, mais il y a beaucoup de gens qui ont vu en effet le tir de flashball.
Et l'avocat ajoute qu'une balle de défense a été ramassée sur place par les proches de Jérôme Rodriguez et qu'elle sera remise aux enquêteurs pour être analysée. Mais pour l'instant, cette thèse d'un tir de LBD simultané à l'explosion de la grenade n'est pas corroborée à ce stade. Ce prétendu tir n'apparaît pas clairement sur la vidéo. Des vérifications sont en cours. D'après nos informations, le policier qui a lancé la grenade, lui, s'est signalé tout de suite. Il va devoir s'expliquer devant l'IGPN et qui est chargé de faire toute la lumière sur les circonstances de cette blessure.
Les précisions de Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Alors cet acte 11 des Gilets jaunes a été marqué par une mobilisation en légère baisse par rapport à samedi dernier. 69 000 manifestants à travers toute la France contre 84 000 la semaine dernière. Au lendemain de cette journée d'action place au foulard rouge pour un rassemblement baptisé Marche républicaine des libertés, ils se sont donné rendez-vous place de la Nation à partir de 14h. Vous êtes sur place pour Europe 1, Hélène Terzian. Alors comment se présentent ces foulards rouges comme des opposants au mouvement des Gilets jaunes ?
Eh bien, Fabienne, ils ne se disent pas anti-gilets jaunes, mais veulent simplement dire stop. Stop aux violences qui émaillent les manifestations du mouvement depuis maintenant 11 semaines. Les violences contre les commerces, mais aussi contre les institutions. Pour Daniel, casquette rouge sur la tête et drapeau français à la main, c'est l'arc de triomphe saccagé au début du mois de décembre qui a créé un électrochoc.
Le respect de nos institutions, les monuments en font partie. C'est notre histoire. Quand vous voyez le vandalisme sur des monuments comme ça, c'est inadmissible. Le respect de nos institutions, c'est nos bâtiments. C'est nos monuments historiques, c'est nos forces de l'ordre. Donc on se bat contre la violence et pour le respect de nos forces de l'ordre et de la République. Voilà, notre démocratie, on y tient et on est bien avec.
Et certains sont venus de très loin pour faire passer ce message. Corinne a fait le trajet depuis Bordeaux. Foulard rouge autour du cou, elle ne se dit pas pro-Macron, mais dit-elle, il faut que les manifestations s'arrêtent, que les gilets jaunes jouent le jeu et tiennent compte des propositions du président de la République.
Et que j'estime quand même que M. Macron a tendu deux fois la main. Donc la première fois avec les 10 milliards qu'il a mis sur la table et la deuxième fois donc avec le grand débat. Il faut participer et je pense que c'est par là que les Gilets jaunes pourront avoir des revendications à émettre.
Les foulards rouges sont encore très peu nombreux ici, place de la Nation. Mais le collectif des foulards rouges à l'initiative de la manifestation espère réunir 20 000 personnes.
Hélène Terzian, place de la Nation, donc à Paris, où doit débuter à 14h ce rassemblement. Au même moment, place de la République, débutera le rassemblement pour le climat, quatrième journée d'action, alors qu'une marche a rassemblé près de 25 000 personnes à Paris en décembre. Et les associations espèrent que la pétition « L'affaire du siècle » va doper la mobilisation lors d'Autriche.
Avec plus de 2 millions de soutiens via la pétition, les ONG se sentent poussées des ailes. Elles savent que les événements autour de la question climatique rassemblent désormais un public plus large, au-delà des militants écologistes. À Paris, aujourd'hui, pas de marche pour le climat, mais une grande agora pour la justice climatique. Pendant 3 heures, durant l'après-midi, des ateliers et des débats réuniront citoyens, scientifiques et militants, explique Marie Pochon de l'association Notre Affaire à Tous.
L'idée, c'est effectivement de discuter des différentes solutions, des différents leviers pour avoir le plus d'impact sur les politiques climatiques qu'aujourd'hui on ne voit pas arriver. Ce qu'on constate aussi, c'est que 2 100 000 personnes, c'est-à-dire la pétition la plus signée de l'histoire en France, n'a reçu aucune réponse du gouvernement. Donc on l'attend de pied ferme et voilà, nous sommes déterminés à déposer notre recours en justice.
Un recours en justice qui vise à attaquer l'État pour son manque d'engagement sur le sujet de l'environnement. Par ailleurs, les ONG réfléchissent à d'autres actions en faveur du climat, notamment au milieu du mois de mars, en incitant à la grève dans plusieurs lycées de France, une idée qui rencontre déjà un succès important, notamment en Suède ou en Australie, où de nombreux élèves font la grève de l'école le vendredi.
Lors d'Autriche, alors parmi les sujets qui fâchent les militants écologistes, il y a la question de la sortie du glyphosate. La France s'est engagée à abandonner l'usage de ce pesticide dans 3 ans, un délai remis en cause par Emmanuel Macron lors d'un débat dans la Drôme cette semaine. Le glyphosate, on ne peut pas dire qu'il n'y en aura plus dans 3 ans, a dit le chef de l'État. Une déclaration qui fait bondir Yannick Jadot, tête de liste pour les prochaines européennes d'Europe Écologie Les Verts.
Je dis qu'Emmanuel Macron prend une responsabilité criminel au regard des dégâts démontrés sur la santé et sur l'environnement du glyphosate. Rappelez-vous le procès aux États-Unis. La justice a condamné Monsanto sur la mise en danger. Les associations ont gagné devant le tribunal administratif de Lyon pour faire interdire un Roundup. Je dis qu'Emmanuel Macron a une vision pathétique de la ruralité. Il pense que la ruralité, Emmanuel Macron, c'est les chasseurs. Cadeau, vous pouvez massacrer tout ce que vous voulez, blanc-seing. On n'a jamais donné autant aux chasseurs et aussi peu aux promeneurs, à ceux qui veulent utiliser la nature pour simplement en profiter, la voir.
Yannick Jadot qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1, c'est News Les Échos. À suivre, Juan Guaido, le président autoproclamé du Venezuela, fait monter la pression sur Maduro avec un nouvel appel à manifester pour réclamer des élections.
La suite du journal, Fabienne Lemoyne.
Et alors que les États-Unis et les Européens ont affiché leur soutien hier à l'ONU à Juan Guaido, le président autoproclamé du Venezuela, met la pression sur Nicolas Maduro. Nouvel appel à manifester aujourd'hui pour réclamer des élections. Promesse d'une amnistie pour les militaires qui se détourneraient de l'actuel chef d'État au Venezuela. Juan Guaido qui multiplie les prises de parole publiques comme hier à Caracas. Pour Europe 1, Pascal Ménot.
Écrasé entre ses gardes du corps et les photographes, Juan Guaido se fraye péniblement un chemin jusqu'à la Seine. Les 3000 personnes qui patientaient au milieu de cette place sous un soleil de plomb laissent éclater leur joie quand le speaker l'annonce comme étant le nouveau président. Le nouveau président autoproclamé commence alors son discours en annonçant qu'il a été reconnu quelques heures plus tôt par la communauté européenne. Il ne prononce jamais le nom de son adversaire, Nicolas Maduro, tout juste le surnomme-t-il l'usurpateur et l'usurpador. Dans la foule, Alejandro secoue un drapeau. Ce chauffeur de taxi de 68 ans a garé sa voiture exprès pour assister au meeting.
Je suis là car on ne peut plus vivre comme ça. Notre pays a trop de problèmes. L'insécurité, se nourrir, c'est hors de prix. Et dans mon quartier, on a de l'eau seulement 3 fois par semaine.
Plus loin, Pablo écoute, les bras croisés. Ce comptable place beaucoup d'espoir dans ce nouveau président.
C'est difficile. Soit il y a un changement, soit on devra se séparer de notre unique fils. Il devra faire sa vie ailleurs, car ici, il n'y a pas d'avenir.
Afin de renforcer son soutien populaire, Juan Guaido prévoit une grande manifestation dont il devrait annoncer la date aujourd'hui. Caracas, Pascal Ménot, Europe 1.
Au Brésil, nouvelle alerte ce matin avec le risque de rupture imminente d'un autre barrage minier dans la même région que celle où un barrage a déjà cédé vendredi. Catastrophe qui a fait 34 morts, 300 personnes toujours portées disparues, vraisemblablement ensevelies dans la coulée de boue qui a suivi la rupture du barrage.
Europe 1, 12h42.
On connaît le nom du chanteur qui va représenter la France pour l'Eurovision. Lourde tâche, ce sera en mai à Tel Aviv. Il s'appelle Bilal Hassani, il va relever le défi avec sa chanson « Roi ». Il est bien connu comme youtubeur en manoké et à peine 19 ans, il a été le favori du public face à des talents confirmés comme Chimène Badi ou encore Emmanuel Moir.
Oui, car Bilal Hassani ne s'est pas laissé impressionner. Costume noir, épaulette en strass, perruque blonde platine. C'est avec ce look à la Kim Kardashian qu'il a interprété sa chanson « Roi ». Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup, chante le jeune homme. Originaire du Maroc et icône queer, Bilal Hassani parle de son homosexualité avec le sourire, quitte à subir une campagne de haine sur les réseaux sociaux. Des attaques auxquelles Bilal répond sur YouTube avec son incontournable.
Bonsoir Paris ! Donc, on a MK7 Braska qui me dit « Hello ta virilité, toi, grande folle, tu vas te faire tourner dans les caves, laissé pour mort. Ça fait plaisir ! Merci ! Si tu kiffes pas, va regarder d'autres vidéos chérie. Et si t'es en train de regarder mes vidéos encore, ça veut dire que t'es intéressée. Par contre, la menace de mort, évite. »
Cette vidéo, par exemple, a déjà été vue 800 000 fois, mais ce qui cartonne le plus, ce sont les reprises de ses chanteuses préférées, Beyoncé ou Janet Jackson, qui a d'ailleurs encouragé le jeune homme, de quoi préparer plus sereinement l'Eurovision.
Merci beaucoup Urban Hockey, on lui souhaite bonne chance donc en mai à Tel Aviv.
Le journal des sports.
Avec Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Tennis pour commencer forcément et Novak Djokovic qui remporte et comment ?
Oui.
L'Open d'Australie.
On s'attendait effectivement à une bataille hein, entre les deux titans, Djokovic et Nadal, mais Djokovic a été bien plus fort, plus puissant, plus précis. Il remporte la finale en trois manches, 6-3, 6-2, 6-3. On retrouve notre correspondant sur place, Christophe Taureau. Bon Christophe, c'est assez clair, il n'y avait pas photo.
Oui, écoutez, tout le monde ici, les 15 000 spectateurs de la Rod Laver Arena, les médias, tout le monde est un peu comme Rafael Nadal, complètement sonné et abasourdi par la performance d'un Novak Djokovic étincelant. Le numéro 1 mondial a tout de suite été le maître des échanges dans cette finale grâce à une qualité de frappe absolument exceptionnelle qui mêle vitesse, précision et qui a complètement muselé l'Espagnol. Djokovic devient le recordman des titres à l'Open d'Australie avec 7 couronnes. Il totalise désormais 15 titres du Grand Chelem et se rapproche des 17 succès de Rafael Nadal et des 20 de Roger Federer. Il faut se souvenir qu'il y a 12 mois, Djokovic il entrait à la clinique pour se faire opérer du coude. Un an plus tard, il a remporté Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie. Dans un peu plus de 4 mois, le Serbe tentera donc à Roland-Garros, dans le jardin de Rafael Nadal, de réaliser un grand chelem sur 2 saisons. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, vivement le printemps.
Christophe Taureau en direct depuis l'Australie. Puis un peu plus tôt dans la matinée, c'est le double français Mahut Herbert qui a remporté le dernier grand chelem qui lui manquait avec la finale du double.
On passe au handball cet après-midi. Les Bleus jouent la petite finale face au pays organisateur, l'Allemagne.
Et évidemment, de la déception, celle de l'élimination, le sentiment que quoi qu'il arrive, ce mondial n'aura pas été réussi. Et pourtant, les Bleus vont devoir puiser dans leurs réserves pour arracher cette médaille de bronze. Pas simple, écoutez Ludovic Fabregas.
L'énergie, si on l'a, j'en sais rien, mais je pense pas qu'à ce niveau-là, la compétition, ça se joue sur l'énergie. Je pense que ça se joue dans la tête. À ce niveau-là, la compétition, quand tu joues autant de matchs en si peu de temps, physiquement, c'est compliqué, mais ça l'est pour tout le monde. Donc après, c'est ceux qui sont les plus solides mentalement qui arrivent à aller plus loin. J'espère qu'on aura les ressources, qu'on va rester soudés comme on l'a fait depuis le début et qu'on ira chercher une médaille pour récompenser tout ça et éviter d'avoir la place du con.
Ludovic Fabregas au micro de Christophe Lamar, Allemagne-France, coup d'envoi 14h30.
On termine avec le football, suite et fin de la 22e journée aujourd'hui.
Classement avec d'abord les derniers matchs et la belle opération de Lille qui est toujours deuxième, qui trace sa route. Strasbourg qui fait une belle percée à la 5e place, talonnée par Nice qui remonte à la faveur de son succès hier face à Nîmes. Et puis ce soir, l'affiche, c'est le PSG leader qui reçoit Rennes. Le moment des retrouvailles pour Hatem Ben Arfa, l'ex-parisien qui va retrouver ses anciens coéquipiers. Le capitaine du PSG, Thiago Silva, qui est d'ailleurs ravi et qui ne cache pas son admiration pour le Français.
Hatem Ben Arfa, il avait une qualité incroyable. C'est un jeu différent de tous les autres. Un contre un, c'est presque impossible d'arrêter. C'est un mec que j'apprécie beaucoup. J'espère que demain, il pourra être pas très bon et que nous, on pourra faire le meilleur match possible pour battre cette équipe-là.
Thiago Silva au micro de Julien Froment. Les autres affiches en Ligue 1, Montpellier-Caen, c'est à 15h, à 17h, Amiens-Lyon et puis un match à 20h, Toulouse-Angers.
Merci beaucoup Simon Rubin. Il nous reste à avoir le temps de ce dimanche et impossible d'échapper au mauvais temps, Valérie Darmon.
Et oui, sans surprise, Fabienne, une perturbation très active balaye la France d'ouest en est depuis ce matin et elle donne donc des pluies assez fortes entre le sud-ouest, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes et l'Alsace. Ça tonne par endroits, il neige beaucoup en montagne au-dessus de 700 à 1000 mètres, particulièrement d'ailleurs dans les Pyrénées. Il faut faire attention au risque d'avalanche quand vous arriverez en station. Dans le nord et dans l'ouest, après les saucées de ce matin, vous retrouvez quelques éclaircies entre les forts passages nuageux, sauf entre le pays de Caux et les Hauts-de-France. Et ailleurs, ces régimes d'averse ou de giboulées. Quelques éclaircies aussi vagues sur la région parisienne pour cet après-midi. Et pour couronner le tout, le vent souffle très fort sur l'ensemble de la France, avec des rafales entre 70 et 80 km/h, beaucoup, beaucoup plus sur les côtes, de manière parfois supérieure d'ailleurs à 120 km/h sur la façade atlantique ou encore les côtes de la Manche. Les maximales, dans ce contexte, elles sont quand même douces. 5 annoncées à Aurillac, 8 degrés à Saint-Étienne, 9 en région parisienne, 11 degrés dans le Lyonnais ou encore à Valence et 15 degrés à Toulon.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, on revient sur ces rassemblements pour le climat à travers toute la France aujourd'hui. Quatrième journée d'action après une marche qui a rassemblé 25 000 personnes à Paris, c'était en décembre. Et alors que la pétition « L'affaire du siècle » a dépassé les 2 millions de signatures, on en parle avec mon invité Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace France.
Il est 12h50, le journal de la mi-journée se poursuit jusqu'à 13h avec vous Fabienne Lemoyle et votre invité.
Et plus de 90 rassemblements pour le climat prévus à travers toute la France aujourd'hui, sous forme de marches dans plusieurs villes en région ou sous forme d'agora avec l'organisation de débats à Paris, place de la République. Ce sera à partir de 14h. Quatrième journée d'action depuis septembre avec un slogan « Faisons de 2019 l'année du climat ». Avec moi en studio, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Bonjour.
Bonjour.
Vous serez dans moins de 2 heures place de la République à Paris, donc pour échanger sur l'urgence climatique. Au même moment, il y aura les foulards rouges. Ils seront place de la Nation pour une marche républicaine des libertés. Ils dénoncent les blocages et les violences liées à la mobilisation des Gilets jaunes qui, eux, étaient dans la rue hier. Bref. Face à ces deux autres mouvements, vous vous dites qu'il est vraiment important de faire nombre. Vous étiez 25 000, hein, je crois, en décembre à Paris.
Oui, il faut en fait relancer cette année parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de marches pour le climat en 2018 et c'était très encourageant avec beaucoup de monde qui a défilé dans les rues de Paris et d'autres villes de France. Et l'idée l'idée était de relancer ça assez tôt au début de l'année 2019 et de pas laisser penser que les fêtes de fin d'année avaient un peu affaibli cette mobilisation pour le climat. Donc il faut effectivement que l'année 2019 soit l'année de l'action climatique, pas simplement parce que ça nous fait plaisir, mais parce qu'il est urgent d'agir et d'agir fortement et de convaincre ce gouvernement, mais aussi tous les autres, parce que le climat est une question globale, de rehausser leur ambition et d'avoir des politiques publiques plus ambitieuses dans la matière.
Je parle à dessein des Gilets jaunes qui s'inquiètent, on vous oppose souvent, qui s'inquiètent eux de la fin du mois avec la hausse du prix des carburants, quand vous vous inquiétez de la fin du monde.
Mais les deux ne sont pas incompatibles et c'est Emmanuel Macron lui-même qui a lancé, je crois, cette formule-là pour essayer de diviser, d'opposer peut-être ces deux mouvements. On ne sera pas d'accord sur tout, bien sûr, avec le mouvement des Gilets jaunes, mais on est d'accord sur beaucoup de points.
Et si je prends
un seul exemple, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, c'est-à-dire consister à mieux isoler les bâtiments, que ce soit les bâtiments des bureaux ou les habitations, c'est à la fois bon pour la fin du monde parce que mieux rénover ces bâtiments, c'est diminuer les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est bon pour la planète et c'est bon pour la fin du mois parce que c'est mieux pour notre qualité de vie et être mieux chez soi, mieux chauffé, et c'est aussi un bon moyen de réduire sa facture énergétique. Donc il y a comme ça beaucoup de mesures sur lesquelles il y a des points de convergence à avoir.
Vous avez des échanges avec eux ?
Oui, on a des échanges avec eux, et notamment la marche du 8 décembre, la dernière de l'année 2018. Plusieurs gilets jaunes sont venus dans cette marche-là. Il y a des échanges parce qu'on s'est bien rendu compte que personne n'était gagnant à essayer de faire croire qu'il y a une opposition. Encore une fois, on n'est pas d'accord sur tout, bien sûr, on ne va pas faire croire qu'on est d'accord sur tout. Mais il y a beaucoup de points de convergence qui sont absolument nécessaires aujourd'hui parce qu'il faut avoir une transition écologique et sociale. Les deux vont ensemble, bien sûr.
Alors, cette quatrième journée d'action, elle s'appuie aussi sur le succès de la pétition L'Affaire du siècle. Vous êtes une des quatre associations qui veulent attaquer l'État pour ne pas faire assez pour le climat. Déjà plus de 2 millions de signatures. Ça témoigne de quoi, justement?
Ça témoigne à la fois d'une préoccupation grandissante pour la question climatique. Donc, c'est encourageant.
Ça
et
dépasse
surtout,
les traditionnels militants écologistes.
Absolument, absolument. Et on a reçu l'aide de beaucoup de communautés, notamment des youtubeurs qui ont diffusé ces messages-là et qui ont sûrement convaincu des populations nouvelles de s'engager là-dessus. Et surtout, ça témoigne pour moi, et c'est ça qui est le plus important, ça témoigne d'une envie d'agir. Pas simplement de se dire « je suis préoccupé par la question du climat, j'ai envie de faire quelque chose ». Et signer cette pétition, c'est aussi soutenir une action juridique, donc quelque chose qui, à la fin, peut avoir un réel impact, un réel effet sur le gouvernement.
Vous dites agir. Justement, le gouvernement a initié un grand débat national avec, parmi les thèmes, la transition écologique. Comment vous allez vous inscrire dans ce débat?
C'est compliqué parce que on a le sentiment, nous, association environnementale, que de toute façon, ça fait des années déjà qu'on est dans le débat public et qu'on porte un certain nombre de propositions. Donc, on continue de porter ces propositions pour,
et
par exemple...
Et dans ce grand débat national,
justement? Oui, mais alors, le grand débat national, le problème, c'est quand vous regardez la partie transition écologique, dès la première question, vous avez juste envie de partir, de fuir,
pourquoi,
de faire autre chose. Parce qu'on vous demande de choisir entre la protection de la biodiversité, la lutte contre le dérèglement climatique, l'érosion du littoral, en faisant croire qu'on peut choisir parmi ces priorités et qu'on nous demande de nous exprimer sur ce qui nous paraît être le plus grave.
Donc
tout
vous n'invitez
est
pas
aussi grave.
Ceux qui ont signé la pétition à participer à ce grand
non,
débat.
Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de participer à ce grand débat, mais il ne faut pas faire croire que ce grand débat va régler la question de la transition écologique quand on connaît le peu d'ambition d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là depuis son élection et même depuis sa campagne. Donc il faut continuer de porter nos propositions, mais il ne faut pas démarrer avec le grand débat et s'arrêter surtout à la fin du grand débat. Il va falloir, c'est un travail au long cours, il va falloir continuer à porter ses propositions, même à la fin du grand débat.
Et ce travail au long cours, ça passe par quoi par rapport à cette pétition L'Affaire du siècle? Vous avez une réponse du gouvernement?
Non, on attend cette réponse. Le gouvernement a jusqu'à fin février à peu près pour nous répondre. Il a un
Donc pour l'instant, vous n'attaquez pas en justice?
Pour l'instant, on a envoyé une demande préalable au Premier ministre et à 10 ministres du gouvernement. Ils ont 2 mois, c'est effectivement le délai légal pour nous répondre. À la fin de ces 2 mois, s'ils ne nous ont pas répondu ou si on estime que les réponses ne sont pas satisfaisantes, on dépose un recours en contentieux auprès du tribunal administratif.
C'est quoi la prochaine étape? On parle de cette grève internationale des lycéens en mars. Il y a une mobilisation d'ailleurs en Belgique qui a réuni 35 000 élèves et étudiants dans la rue, je crois que c'était jeudi. C'est le troisième jeudi de suite qu'ils le font et il y a 3 fois plus de personnes qu'au début.
Mais c'est très encourageant aussi, c'est aussi une nouvelle forme d'action. Ce qu'on voit depuis quelques mois maintenant, c'est qu'il y a de nouvelles manières de s'engager pour la question climatique. Il y a effectivement les rassemblements, les manifestations, il y a des actions de désobéissance civile qui sont de plus en plus nombreuses aussi. Il y a le recours à la justice à travers l'affaire du siècle. Et puis il y a effectivement de plus
Parce
en plus de lycéens.
Les mises en garde ne suffisent plus, on l'a vu encore à Davos cette semaine. Tout le monde a crié, j'ai envie de dire le secrétaire national des Nations Unies, le premier, Antoine Guterres, qui a une voix qui porte, qui dit qu'on est... On va vers une tragédie.
Mais oui, mais la vraie star à Davos, c'était pas le secrétaire général des Nations Unies, c'était cette adolescente suédoise de 15 ans, Greta Thunberg, qui a été la première à se mettre en grève et qui a dit « Mais moi, j'ai 15 ans aujourd'hui, je n'ai plus d'avenir parce que les gouvernements ne font pas assez, donc pourquoi je continuerai à aller étudier à l'école si je n'ai pas d'avenir ?» Donc c'est la première qui s'est mise en grève pour le climat. Et ça s'est propagé dans beaucoup de pays.
Ça veut dire quoi se mettre en grève d'ailleurs
pour... Ça veut dire qu'elle a refusé d'aller à l'école une journée, et aujourd'hui une journée par semaine, elle a refusé d'aller à l'école. Ce mouvement a pris très rapidement dans des pays aussi différents que l'Australie, l'Allemagne et la Belgique, vous le disiez, connaît un grand succès avec des manifestations qui rassemblent de plus en plus de monde. Et je pense que ce mouvement va arriver très rapidement en France, où pour la première fois, des lycéens vont se mettre en grève pour le climat en disant « il faut qu'on prépare notre avenir, et préparer notre avenir, ça passe aussi par... » nous intéresser à ce sujet du dérèglement climatique.
Merci beaucoup Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. On suivra justement cette mobilisation qui normalement est prévue le 15 et le 16 mars prochain. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que le Rassemblement pour le climat à Paris, c'est à 14h, place de la République, et autrement des marches à travers toute la France.